C'est aujourd'hui, en ce 19 mars, la fête, évidemment, de Saint-Joseph, qui l'ignore pas grand monde, quand on sait qu'au cœur de Montréal, il y a cette immense basilique dédiée à Saint-Joseph sur le Mont-Royal, où il y aura foule, sans doute, aujourd'hui. Et Saint-Joseph peut sembler un saint négligeable, puisqu'on n'en sait rien, ou à peu près rien, mais non, on en sait certaines choses qui sont extrêmement intéressantes. Et je vais essayer aujourd'hui de développer autour de l'évangile du jour une réflexion sur la confiance de cet homme, sa sérénité, sa joie, sa capacité de passer à travers ce drame qui affecte beaucoup de pères aujourd'hui, la perte d'un enfant. Mais oui, l'évangile nous parle aujourd'hui du jour où leur enfant Jésus, eh bien Marie et Joseph l'ont cherché, ils l'avaient perdu, il avait 12 ans. Et c'est un drame très intéressant à lire aujourd'hui dans l'évangile du jour. Au microphone, Raymond Beaugrand Champagne. Je vous lis donc cet évangile que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, et qui nous dit bien des choses, vous verrez. C'est dans Saint-Luc au chapitre 2, verset 41 et les suivants. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils allaient évidemment donc visiter le grand temple de Jérusalem. Il y avait ce temple immense qui n'a été détruit, je vous en ai parlé hier, qu'en l'an 70. Et Saint-Luc ajoute, quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Mais comment ça se fait qu'ils ne s'en sont pas aperçus, vous l'allez dire? Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils ont fait une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents puis leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils sont revenus à Jérusalem en continuant à le chercher. Il faut dire que la première journée, les hommes voyageaient seuls, les femmes voyageaient seules. Ce n'est qu'au bout d'une journée qu'ils pouvaient se rendre compte, en se parlant, que Jésus n'était ni avec l'un ni avec l'autre. C'est les vieilles coutumes. L'évangile continue, l'évangéliste, là, puis le texte de l'évangile d'aujourd'hui continue. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Curieux que ça lui prenne 3 jours pour le retrouver dans le temple. Mystère du texte. Ce 3 jours embête beaucoup, beaucoup d'auteurs. Jésus les écoutait et leur posait des questions, et puis tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents, Joseph et Marie, furent stupéfaits, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Étrange réponse de la part d'un garçon de 12 ans. » Il faut dire qu'un garçon de 12 ans, dans ce temps-là, c'est comme un garçon, disons, de 18, 19, 20 ans aujourd'hui. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché, ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » C'est un peu comme s'il niait la paternité de Joseph, paternité adoptive, si on veut, ou putative, comme on dit parfois. Et Saint-Luc ajoute, « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Imaginez dans leur cœur ce que ça devait être. C'est épouvantable. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth. Et les derniers mots sont surprenants. Et il leur était soumis. Il a des réponses qui semblent être d'un jeune un peu délinquant, qui n'est pas très soumis. Puis, l'évangéliste dit qu'il leur était soumis. Alors, on va s'aventurer là-dedans pour essayer de comprendre. Et c'est très beau parce que ça nous permet de comprendre aussi le cœur d'un père et d'une mère, évidemment, mais aujourd'hui c'est la fête de Saint-Joseph, le cœur d'un père qui endolorit, hein, comme tant de pères aujourd'hui. Je dis donc cette émission à tous les pères qui pourront comprendre le cœur de Saint-Joseph, puisqu'il souffre même soit de la perte d'un enfant, soit d'un enfant qui est disparu, d'un enfant qui a quitté le foyer en claquant la porte, etc. Le père Faber, ou Faber, un auteur très populaire autrefois, fait une description assez intéressante. Il disait « L'ombre du soir est déjà tombée avant que les deux groupes d'hommes et de femmes dont je vous ai parlé se soient rejoints à l'endroit convenu pour se retrouver et se reposer. Alors Joseph attend son épouse. Mais sitôt réuni, Marie s'aperçoit que Jésus n'est pas avec lui. Et avant toute parole, son cœur s'alarme. Joseph ne sait rien. Son humilité, ce serait fort étonné que Jésus l'ait suivi plutôt que d'accompagner sa mère. C'est un homme humble. Il admet que Jésus soit plutôt avec sa mère, donc dans le groupe des femmes. Et le père Faber continue, soudain, il se sent seul. Seul au milieu de cette multitude, plus isolé que deux cœurs l'aient jamais été depuis que le soleil, jadis, s'est couché sur Adam et Ève. Mais oui, il doit être seul, hein, Adam et Ève, selon le texte de la Genèse, bien seul. Joseph est écrasé, littéralement. Et quant à Marie, toute lumière a quitté son âme. Elle est emplie de la plus terrible désolation spirituelle qu'aucun saint ait connue. Jésus l'a quittée. Qu'est-ce que cela veut dire? Et seul dans la nuit, Marie et Joseph refont la route qui conduit à Jérusalem. Leurs pieds sont lourds et fatigués. Mais qu'est-ce que cela? Leurs cœurs sont encore bien plus blessés et combien plus lourds. Est-ce que ce serait un rêve? Un mirage? Alors cet auteur, le père Faber ou Faber, n'exagère pas les preuves que Dieu a ménagées à Marie et à Joseph lorsque Jésus a été perdu dans le temple. Sans qu'ils aient, au fond, à se leur reprocher l'un l'autre, leur garçon était quand même assez vieux, mais vieux de tempérament, de caractère. Et puis, comme dit un auteur très intelligent dans un ouvrage sur Saint Joseph après le Concile Vatican II, c'est le père Philas qui a beaucoup écrit, et je m'inspire d'ailleurs surtout de lui pour vous parler de Saint Joseph aujourd'hui, un jésuite de Chicago. Il dit, une méthode d'approfondissement dans la signification de la fonction de Joseph auprès de Jésus serait de réfléchir sur l'influence certaine du tempérament du père sur celui du fils. Influence que les études psychologiques ont démontré. La théologie catholique nous enseigne que Jésus, malgré sa science infuse, croissait en acquérant des connaissances comme tout autre être humain. Au point de vue dogmatique, l'Église a solennellement enseigné que Jésus avait une véritable nature humaine. Alors le caractère de Joseph a donc pu se refléter jusqu'à un certain point sur celui de Jésus. Alors Jésus devait ressembler à son père dans un sens. Et il devait être tellement attaché à Jésus. Pour nous, à nous en tenir à la lettre du texte de Saint-Luc que je vous ai lu tout à l'heure, il s'agit ici d'une grande leçon, car le fait est là, dans toute sa dureté. Dieu, dans son immense amour pour Marie et Joseph, on dirait qu'il leur enlève Jésus. En tout cas, il permet l'événement. Et Jésus, qui est Dieu lui-même, pose ce geste. Est-ce pour faire mûrir son père et sa mère? Qu'est-ce que c'est? Ils ne savaient rien d'autre que cela, eux autres. Il leur était enlevé, et apparemment, pour toujours, il avait perdu. Peut-être qu'il était enlevé par quelqu'un, par un groupe. Et si souvent nous nous plaignons de la volonté du Seigneur à notre égard, c'est alors que nous montrons toutes les faiblesses, nous, de notre foi, attachés à nous-mêmes. Nous nous considérons d'une manière ou d'une autre en dehors de ceux que Dieu s'est choisi. On pense que Dieu nous a rejetés de son amour infini. Dieu nous a oubliés. C'est pour ça que nous sommes dans des problèmes et des difficultés. Mais c'est parce que Dieu permet que l'épreuve nous arrive. Et au creux de cette épreuve, il veut nous montrer son amour. Car si nous nous réfugions en lui, d'une façon solide, nous allons grandir et avoir en nous beaucoup plus de confiance. Et c'est ça, la confiance de Saint Joseph. Cette apparition de l'enfant Jésus puis ses parents, l'enfant Jésus, c'était plus un enfant, c'était un jeune homme. Ça doit nous porter à méditer sérieusement sur cette grande réalité qui doit pénétrer là, au fond de notre conscience. Et c'est à ces deux saints extraordinaires que sont Marie et Joseph que Dieu a envoyé cette terrible épreuve. C'est arrivé. Et cela afin de prouver que Dieu a conduit Marie et Joseph dans l'obscurité de la foi, leur a demandé un tel sacrifice pour leur bien futur, puis pour le nôtre aussi, comme je vous disais. Pas plus que ceci, nous ne pouvons nous considérer dans ce cas comme exclus de l'amour de Dieu. Ne nous croyons jamais exclus de l'amour de Dieu dans les plus grandes épreuves. Ce couple extraordinaire, ce mari et cette femme, ont déjà bien souffert ensemble. Et lorsque, par exemple, Joseph a eu connaissance de la grossesse de Marie, imaginez, à cette époque, Dieu leur avait demandé de sacrifier leur amour l'un pour l'autre jusqu'à ce qu'il le leur rende. Et cette fois, il leur demande le sacrifice de leur amour pour Dieu, leur fils, jusqu'à ce qu'il le leur rende. Mais quand? Ils l'ignorent. Et Jésus leur reviendra-t-il jamais? Alors le voyage à Jérusalem, tel qu'il est mentionné par Saint-Luc dans le second chapitre de son évangile, est évidemment l'un de ses pèlerinages annuels, le fait par la Sainte Famille au Temple. Ce voyage ne semble pas être bien différent des précédents. Le fait que Jésus soit entré dans sa 12e année, où, comme beaucoup d'exégètes le pensent, il avait vraiment 12 ans, indique qu'il était à l'âge où les Juifs commençaient à être soumis à la loi. Il est traditionnel, d'ailleurs, de considérer l'événement comme la perte de l'enfant Jésus. Et sans doute, oublions-nous, là, aussi les coutumes du temps et du lieu, hein. Parce que si nous réfléchissons que le Christ n'avait que 2 ou 3 ans de moins que l'âge nubile, il y a même un auteur québécois remarquable, Olivier Legendre, dans son ouvrage Le Charpentier, publié chez Anne Sigier, qui nous dit que vraisemblablement, Marie avait 14 ans et Saint-Joseph 15 ans quand ils sont commencés à se fréquenter. Et alors donc, il n'avait que 2 ou 3 ans de moins que l'âge qu'on dit nubile, propre au mariage. À l'époque, on doit considérer, au point de vue de sa maturité, Jésus comme un jeune homme, je vous l'ai dit, de 18-20 ans. Et néanmoins, il était encore sous la juridiction de ses parents, tout comme un jeune homme de 18 ans le serait de nos jours. Et ce que nous voulons démontrer, c'est que la maturité dont on le créditait alors était infiniment plus grande que celle d'un garçonnet de notre temps qui a 12 ans. Bien que il était loin d'avoir atteint l'âge de 30 ans exigé de ceux qui enseignent la religion juive, hein? C'est sûr. Selon l'habitude, il semble que les enfants devaient revenir du temple avec l'un donc de leurs parents, comme je l'ai dit, soit dans le groupe des hommes, soit dans le groupe des femmes, jusqu'à ce que la caravane se réunisse le premier soir de l'étape. Et Joseph et Marie ont cru, chacun, que Jésus, évidemment, était avec l'autre, hein, je vous l'ai dit. Ils n'ont découvert leur erreur. Nous l'avons vu qu'à la fin du jour. Le récit de Saint-Luc montre d'une manière vivante là, leur douleur, la hâte avec laquelle ils retournent à Jérusalem pour retrouver leur fils. Nous ne nous expliquons pas que cette recherche ait pu durer plus de 3 jours, c'est invraisemblable. Pourtant, le temple n'était pas si grand. Et on est bien obligé de conclure que peut-être Jésus s'est caché de ses parents. Quand enfin, dans la divine providence, ils décident qu'ils vont le retrouver. Il est au milieu des rabbins, les écoutant et leur posant des questions. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient émerveillés de son intelligence et de ses réponses. Et nous verrons la suite tout à l'heure, comment on peut développer le sens de la confiance, de l'espérance et de la prière de Saint Joseph au moment où il a perdu son fils. Exaltat mihi. moine de Salem, qui chantait un offertoire, Veritas, ma vérité et ma miséricorde seront avec lui, et par mon nom s'élèvera sa puissance. C'est un texte de la Bible, évidemment. Chanté donc par les moines de Salem sur ce disque intitulé « L'Église chante les saints ». Pardon. Et alors donc, au moment des grandes fêtes, comme pour la Pâque, les rabbins faisaient habituellement des sermons sur la loi, sur les parvis du temple de Jérusalem. Et c'est au centre d'un de ces groupes que Marie et Joseph voient Jésus. Ce qui est surtout extraordinaire, c'est que malgré son jeune âge, il ait pu se mêler à une discussion avec des hommes d'un si grand savoir. Est-ce que ça a du bon sens? C'est que le génie du Christ se manifestait déjà. Mais si la surprise des auditeurs était grande, imaginez l'étonnement et même le choc de Marie et de Joseph. Saint Luc le rapporte, il dit, ils furent frappés d'étonnement. Et bien que connaissant les origines divines du Sauveur, de leur fils. Ils le savaient. Marie le savait, elle l'avait dit à Joseph. Mais Marie n'en était pas moins consciente de sa responsabilité de mère. Une vraie mère. Des quelques mots si précieux qui nous sont conservés, il n'en a pas beaucoup, je crois, qui puissent mieux exprimer son cœur de mère. Nulle part ailleurs non plus. On peut trouver dans les évangiles une preuve plus absolue de son amour pour Joseph, le chef de famille. Rappelez-vous ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Saint-Luc, elle lui dit à Jésus, mon enfant, pourquoi nous traiter ainsi? Ton père et moi, nous te cherchions tout affligés. Et la réponse de Jésus est respectueuse, mais elle est dépourvue de tout équivoque. Il y a un ordre divin qui impose le sacrifice des liens les plus chers. Et cette réponse joue sur le mot « père ». Et c'est assez terrible pour Saint Joseph. Marie, il lui a demandé à Jésus pourquoi il a causé une si grande peine à son père de la terre, Joseph. Et Jésus pose alors une question qui semble étrange et très curieux. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ou, comme on peut aussi l'interpréter, ce serait peut-être mieux, ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon père? Et c'est tout un choc que donne à ses parents la conduite de Jésus, du Christ. Ils négligent, on dirait, toute obéissance à leur égard. Ce qui est peut-être l'une des causes, d'ailleurs, de leur consternation et de leur chagrin. C'est pas facile à comprendre au début. Et là encore se trouve un exemple de la manière dont Dieu exerce notre foi à nous tous, par sa parole. Même lorsque sa parole semble contraire à l'évidence, Marie et Joseph, là, savent bien que le caractère de la personne de notre Seigneur, personne avec un P majuscule, si vous voulez, doit s'expliquer autrement que par la simple raison humaine. Et sa conduite dans la vie de chaque jour en est le témoignage vivant. Et à présent, là, il est arrivé comme à maturité. Il a ses 12 ans accomplis. À l'époque, hein, c'était l'âge. Mais à présent, il se trouve en présence de ce qui, à première vue, semble une sorte d'insubordination. Jésus donne un petit peu l'impression de manquer de cœur, d'être presque un petit peu délinquant, d'être un peu révolté contre ses parents. Vous savez, comment sont les enfants à 12, 13, 15 ans, 18 ans? Ben, les parents qui m'écoutent, vous savez ce que c'est? On dirait que c'est ça. Et à présent, il se trouve en présence de ce qui, à première vue, donc semble une subordination. Puis, il leur est demandé, en même temps, de croire que ce n'est pas tellement une désobéissance envers ses parents qu'une obéissance à Dieu, son Père. Comme autrefois, là, ces foules, les centaines de jeunes gens et de jeunes filles qui préféraient être missionnaires que de réussir dans la vie comme le souhaitaient leurs parents, qui partaient en mission pour la Chine, pour l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Pour partout, hein, les Québécois, ça partait par centaines. Ils étaient comme aux choses de leur Père du ciel. Et n'oublions pas que pour Joseph, comme pour Marie, la connaissance de la divinité de leur fils, c'était ce qu'on appelle un article de foi, c'est-à-dire un cheminement obscur. C'était pas encore cette vision, je dirais, intuitive du ciel dans une lumière qui éclaire, qui explique et tout ça. C'était pas facile. Alors cet épisode où Jésus reste au temple de Jérusalem passe pour être vraiment entouré de mystères, hein, c'est sûr. Hein. Quand on voit dans la Bible les terribles souffrances qu'ont dû subir les Juifs au cours de l'histoire d'Israël, on les comprend généralement, tout au moins en partie, ces Juifs. Car Marie et Joseph, ce sont des Juifs. Et la perte de Jésus au temple, c'est fort embarrassant. N'a cela pas de véritable explication? Du moins selon nos raisonnements logiques. Hein, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? On pense qu'il l'a fait. Il l'a permis. Il l'a fait aussi. Il l'a fait. Et à 20 siècles de distance, on est encore déconcerté à l'idée de l'angoisse et du doute affreux qu'ont dû souffrir Marie et Joseph. Ils aiment Jésus à la fois comme leur fils et comme leur Dieu. D'un amour inimaginable, hein, qui dépasse celui des plus grands saints. Pour eux et dans leur ignorance, cette absence du Christ signifie en somme que sa passion a déjà commencé, que les ennemis du Dieu triomphent, ils pensent qu'il a déjà été pris à dessein pour souffrir. Parce qu'ils connaissent les prophéties qui annoncent l'homme de douleur. Ils connaissent les textes d'Isaïe. Hein? Ils pensent que c'est ça, l'homme de douleur. Ça s'accomplit aujourd'hui, avant qu'ils le retrouvent, leur Jésus. Hein? Puis s'il en est ainsi, ses parents ne sont pas là pour l'aider. Ils voudraient l'aider, l'assister dans sa souffrance. Mais quelle nouvelle source de peine immense dans l'amour qu'il lui porte. Et remarquons que les paroles de notre Seigneur s'adressent à ses parents. Hein. Jésus demande à Joseph, comme à Marie, de croire, de comprendre que cette séparation, avec les recherches harassantes et les doutes qu'elle a entraînés pour eux, ont été directement voulus par Dieu le Père, et qu'il les a lui-même voulus, au fond, puisqu'il est Dieu, un avec le Père. Alors il faut qu'ils croient que cette épreuve leur a été envoyé par ce même Dieu qui les aime. Est-ce que vous m'entendez, vous, les parents, surtout les pères? Vous avez perdu un fils, une fille, disparu. Vous ne savez plus où ils sont. La drogue les a emportés, la révolte. Mais c'est terrible. Il faut qu'ils croient que cette épreuve leur a été envoyée par ce même Dieu qui les aime, tout comme les aime ce fils qu'il leur a donné. Il faut qu'ils croient que cette épreuve est pour leur propre bien et pour le bien de l'humanité, et en aucune façon la dignité des parents du Christ n'est atteinte. Et rien ne montre qu'ils aient été dans leur tort. C'est pas la faute des parents, souvent, si les enfants font certaines choses. Ils doivent apprendre cependant que les épreuves peuvent déranger la bonne organisation de la vie de la famille. Et telle qu'ils la vivent habituellement, cette vie de famille, mais elle est dérangée. Et plus tard, dans sa vie publique, Jésus va enseigner la conformité à la volonté de Dieu, jusqu'au sacrifice même des liens les plus proches et les plus chers. Il y a des paroles tellement étranges. Quand une certaine femme, élevant la voix là, du milieu de la foule, va lui dire, elle parle de Marie, hein, « Heureux le sein qui vous a porté et les mamelles qui vous ont allaité. » Oui, mais c'est ce qu'il répond à Jésus, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ici, le langage de Jésus ne diminue pas la dignité de Marie, c'est pas ça que ça veut dire. Il signifie en rien un manque d'amour de sa part, mais il enseigne que la volonté de Dieu, c'est très important ça, c'est la pierre de touche de la sainteté. La volonté de Dieu, c'est la pierre de touche de la sainteté. C'est ça qu'il faut retenir de ce bel évangile étrange d'aujourd'hui. Implicitement, ça veut dire que sa mère était bénie à cause de cette obéissance même. Son amour pour sa mère, Marie, était subordonné à la volonté de son père. Ce que Jésus a dit de Marie dans sa vie publique, ça concorde avec sa conduite vis-à-vis d'elle quand il était enfant au temple de Jérusalem. Et à ce moment, il s'était adressé en même temps à Joseph, à Saint Joseph, pour lui donner la même leçon. Et la volonté du Père doit passer avant tout. Les paroles de Jésus n'étaient pas plus blessantes pour la dignité de Saint Joseph qu'elles ne témoignaient de défaveur envers Marie lorsque la femme de l'Évangile le glorifiait. C'est la même chose. Et nous verrons tout à l'heure comment Saint Joseph nous est un exemple de confiance, de sérénité et de sainteté. Cet évangile du jour où Jésus est disparu, il a 12 ans, il est perdu dans le temple et les parents le cherchent, ils le trouvent. C'est une leçon de foi que Marie et Joseph ont reçue à Jérusalem. Et c'est encore une leçon de confiance, comme je vous ai dit tout à l'heure, une confiance absolue envers la Providence. Il y a une grande quantité d'ouvrages qui ont été écrits qui commentent les paroles de Jésus à ce sujet. Il semble que aucune prière ne soit aussi fervente dans sa brièveté, elle n'est pas si courte que ça, mais quand même, que celle qui a été composée par Saint Claude de la Colombière, dont je vous ai déjà parlé, un jésuite. Et voici, qui a vécu il y a plusieurs siècles. Je vous la lis. On va commencer donc cette demi-heure avec une belle prière, en rapport avec ce que nous venons d'étudier dans la première demi-heure. Ô Dieu, je suis tellement certain que vous veillez sur ceux qui mettent leur confiance en vous et que nous ne pouvons manquer de rien quand nous attendons tout de vous, que je me promets à l'avenir de vivre libre de tout souci et de vous adresser toutes mes inquiétudes. Et là, il cite le psaume 4, le quatrième psaume. « En paix, je me coucherai, je m'endormirai aussitôt. » Car vous, Seigneur, vous seul, m'établissez dans la sécurité. Et Saint Claude de la Colombière continue. Les hommes peuvent me priver de richesse et d'honneur. La maladie peut m'enlever la santé et les moyens de vous servir. Je puis même perdre votre grâce par le péché, mais je ne perdrai jamais la confiance. Je la garderai jusqu'au dernier moment de ma vie. Et c'est en vain qu'à cet instant, toutes les puissances de l'enfer chercheront à me l'arracher. Puis là, il recite les psaumes, « En paix, je me coucherai et je m'endormirai. » que d'autres cherchent leur bonheur dans la fortune et les talents, qu'ils comptent sur la pureté de leur vie, la sévérité de leur mortification, le nombre de leurs bonnes œuvres, la ferveur de leurs prières. Vous, ô Seigneur, m'établissez dans la sécurité. Quant à moi, ô mon Dieu, toute ma confiance est ma confiance même. Cette confiance n'a jamais été trompée. Personne n'a jamais espéré en Dieu en vain. Et Saint-Claude de la Colombière continue, « Je suis certain, par conséquent, d'être heureux éternellement puisque je l'espère fermement et parce que c'est de vous, ô Dieu, que je l'espère. J'espère en vous, Seigneur, que je ne sois jamais confondu. » C'est le psaume 30. On dirait presque une prière de Saint-Joseph. Et il termine en disant, « Je sais, hélas, je ne le sais que trop, que je suis fragile et changeant, je sais que la tentation peut faire contre la plus forte vertu. J'ai vu les étoiles tomber du ciel et chanceler les piliers du firmament, mais cela ne peut m'effrayer. Aussi longtemps que je continue à espérer, je serai à l'abri du malheur, et je suis sûr d'espérer toujours, puisque je compte sur vous, mon Dieu, pour soutenir ma confiance. Enfin, je sais que ma confiance ne peut être vaine et que je ne recevrai jamais moins que je n'ai espéré recevoir de vous, ô mon Dieu. C'est pourquoi j'ai la ferme espérance que vous me soutiendrez contre mes mauvaises inclinations, que vous me protégerez contre les assauts furieux du démon, que vous ferez triompher ma faiblesse sur mes plus puissants ennemis. Je sais que vous m'aimerez toujours. Oui, je sais que vous m'aimerez toujours. Et j'espère que je vous aimerai en retour à jamais. C'est en vous, Seigneur, que je me confie, que je ne sois jamais confondu. C'est une bien belle prière de Saint-Claude de la Colombière. On n'aurait qu'une vue bien, bien incomplète de ce qu'on pourrait appeler les personnalités de Marie puis de Joseph. Si on s'arrêtait seulement à la perte qu'ils font de Jésus au temple, sans aller plus loin, la tradition a fait de cette épreuve une des sept douleurs de Marie. Et rappelons-nous qu'une des sept joies principales des deux époux a été de l'avoir retrouvée. Tout ce que nous apprennent les évangélistes sur la Sainte Famille nous montre que Joseph, Marie et Jésus étaient considérés par leur entourage comme une famille ordinaire. J'ai bien dit Joseph, Marie et Jésus. Je les mets dans cet ordre-là, pas simplement parce que c'est la fête de Saint-Joseph, parce que Joseph est le père, Marie la mère, puis Jésus l'enfant. Et c'est comme ça qu'on cite, en principe, quand on parle d'une famille, le père, la mère et l'enfant. Jésus était certes haï de ses ennemis, hein, mais on pouvait s'empêcher de lui accorder le respect que l'on doit à un homme de conduite exemplaire, et on peut implicitement supposer qu'il en était de même de ses parents. Hein? On voit dans Saint Jean, chapitre 6, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère. Ils le connaissent, Joseph, ils connaissent Marie. Il est des gens qui traversent la vie d'un air sombre et mélancolique. Hein? On peut se demander si Joseph était joyeux. Les gens sombres, les gens tristes, les gens mélancoliques, les saints tristes, on les évite. Pour Jésus, on le savait sérieux, mais jamais morose. Autrement, comment aurait-il pu gagner l'amour de tant de gens? Ouvrir leur cœur, comment aurait-il pu? On peut sans crainte d'erreur, donc, étendre son pouvoir d'attraction à Marie puis à Joseph, tellement proche de lui. Il devait ressembler à ses parents, dans ce sens-là. On n'en trouve aucune preuve dans les évangiles. On peut croire qu'il en était autrement vu la sainteté de ces trois personnes, hein? Joseph, Marie et Jésus. Il n'y a jamais eu trois natures humaines dans lesquelles a existé une telle sainteté. Ce sont les trois plus grands saints. Or, la sainteté, c'est quoi? C'est la quasi-perfection des vertus. Et la vertu à son tour, c'est le développement, pour ainsi dire, complet et harmonieux des dons moraux, là, des dons psychologiques, des dons de toutes sortes, puis de la grâce divine. Alors la tristesse qui se complaît en elle-même, là, les gens qui se grattent le cœur pour qu'ils saignent. La tristesse qui se complaît en elle-même, c'est certainement pas une vertu. Les gens qu'on voit à l'église, là, ils sortent tristes, ils nous regardent pas, même si on les connaît, là, ils ont l'air tout tendu, là, mélancolique. Ah, c'est terrible. C'est tout au plus un simulacre qui cache un véritable égoïsme au fond. C'est une excuse pour nourrir un orgueil spirituel, il me semble, qui se réfugie en soi-même. Ces gens-là veulent se rassurer, peut-être, ils sont timides. C'est peut-être ça. Mais ils sont loin de la création joyeuse dont Dieu nous a fait don, et cette création joyeuse qui nous entoure, regardez ce soleil, le printemps qui arrive, Pâques qui s'en vient, et Marie et Joseph, après le retour de Jérusalem, ont connu ce développement harmonieux de leurs facultés sous l'action de la grâce. Ils avaient toujours su que le Fils de Dieu leur avait été donné miraculeusement, et qu'il devait être un homme de douleur, ça ils le savaient, et pour ceux des Juifs qui avaient su discerner, comme eux, spirituellement, la signification des prophéties, surtout d'Isaïe, il était évident que le Messie, qui était leur fils, serait un rédempteur qui sauverait son peuple par ses souffrances, mais par son amour. Et cependant, Marie et Joseph comprenaient que ses souffrances et son amour total devaient s'accomplir selon la volonté du Père et jusqu'à ce que Dieu manifeste sa volonté. Ah, il aurait été bien peu croyants, eux, s'ils s'étaient laissés aller à la mélancolie. Des vrais croyants sont joyeux, d'une joie profonde. Et la pensée de l'avenir douloureux de Jésus s'était compensée par quoi? Mais par le fait que tout ce destin plutôt sombre, et même très sombre, avait été fixé, qu'il serait en quelque sorte accepté par la providence de l'amour éternel. Et c'est pourquoi la foi parfaite de Marie et de Joseph, de ce couple extraordinaire, témoignait de la plus grande confiance en Dieu, la confiance, en Dieu qui, dans sa puissance et sa bonté, ferait sortir le bien du mal. Et quel bien est sorti de cette passion? Quelle preuve d'amour incroyable que Dieu, en son Fils, nous a donnée. Quand on se laisse envelopper par tout cet amour, cet Esprit Saint, nous sommes comme éblouis. Nous pouvons deviner en partie quel raisonnement donnait à Joseph et à Marie cette sérénité, cette paix intérieure, qui venait de leur acceptation de ce que l'on appelle la volonté de Dieu, sérénité qui se reflétait dans la joie, avec laquelle chacun d'eux faisait face à tous les incidents de l'existence quotidienne, tous les hauts et les bas, puis les petites croix, qui préparaient évidemment les grandes douleurs que Dieu devait envoyer plus tard dans son plan. Alors, il faut tirer un grand profit de cette leçon de joie, qui est basée sur l'acceptation de la volonté de Dieu, une attitude joyeuse. Une attitude joyeuse qui présente bien, bien des avantages. Que c'est beau de voir une religieuse, un religieux consacré, un père, une mère de famille, un jeune homme convaincu, croyant, qui est plein de joie. Une jeune fille toute rayonnante de cette joie et de cette sérénité chrétienne. Que c'est beau, hein? Et des grands malades sur leur lit de souffrance, qui ont ce sourire, comme Claude Brunet, dont je vous ai parlé toute une émission, hein, ce fameux Claude Brunet, dont je souhaite la béatification et la canonisation. Tout d'abord, cette sérénité nous encourage. Cette joie nous stimule à persévérer dans le progrès. Ça ne veut pas dire qu'à tous les moments de la journée, on doit être obligé d'être joyeux. C'est une attitude impossible pour des pauvres humains que nous sommes. Nous avons tant d'occasions de réagir selon toutes sortes d'occasions. Puis, toutes ces personnes à qui on a affaire, parfois, c'est pas facile. Mais on se tromperait fort si l'on imaginait que la sainteté, ça demande une conduite morose. Jamais de la vie. On insiste trop souvent dans l'enseignement religieux que les graves responsabilités qu'entraînent les lois divines doivent nous rendre moroses, comme si Jésus et Marie avaient de grandes responsabilités. Leur fils était le fils éternel de Dieu. Ils auraient dû être tristes et moroses. Ça ne change jamais de la vie. C'est oublier le fait que la sainteté, ça unit plusieurs vertus, et que l'affabilité et l'enjouement même
le sens de l'humour. Sont des vertus tout aussi réelles que l'humilité puis l'attention aux devoirs de chaque jour. Oublions jamais ça. Le sens de l'humour. Faudrait que je vous consacre une belle émission sur le sens de l'humour avec Chesterton et d'autres. Saint-Philippe Néri. Aussi l'enseignement des saints joyeux sur la joie et la gaieté. Ça prend toute sa valeur, hein. Ça mérite d'être plus connu, hein. On formule naturellement des objections envers cette attitude joyeuse, comme si les optimistes et les gens peu sérieux étaient moins parfaits et voire moins pécheurs. C'est saint Ambroise qui disait des sornettes, il écrivait « Notre Seigneur a dit, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Et saint Ambroise ajoutait « C'est pourquoi je considère que tous les jeux, et non seulement les jeux excessifs, doivent être évités. » Mais c'est épouvantable. C'est dans les textes des pères latins. Pauvre saint Ambroise qui a dit tellement de belles choses. Mais il s'est fourvoyé ce jour-là, et saint Jean Chrysostome en a dit de pire, hein? C'est tellement sévère, ce saint Jean Chrysostome, c'est épouvantable. Il dit, je l'ai lu pour vous montrer comme c'est effrayant, mais pourtant ce sont des saints. J'espère que ce sont guéris avant de mourir, c'est pour ça qu'ils ont été canonisés. Ce n'est pas Dieu, c'est le démon qui est l'auteur de l'amusement, dit saint Jean Chrysostome. Écoutez ce qui arriva à ceux qui s'amusaient. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est dans l'Exode, chapitre 32. Et alors, ils adorèrent le veau d'or qu'ils avaient fabriqué. 3000 d'entre eux, d'après le texte hébraïque, furent massacrés par les Lévites en punition de leur idolâtrie. Et quand on lit des choses comme ça, on doit donner à ces textes une interprétation, mais il faut bien moins rigoureuse. Et saint Thomas d'Aquin oppose ce beau texte de saint Augustin. « Je t'en prie, ménage-toi de temps en temps. » Car le sage sait se détendre d'une contrainte trop forte à laquelle l'oblige l'attention qu'il porte à son travail. Et cette détente, ajoute saint Thomas d'Aquin, consiste en jeux, oui, des jeux, en mots d'esprit, c'est saint Thomas d'Aquin qui parle, des mots d'esprit qui expriment la vertu de joie. On peut d'ailleurs faire une comparaison entre le repos du corps et celui de l'esprit. Tout comme le repos physique redonne de la force, ça rend possible la reprise du travail le lendemain matin. Ainsi, le plaisir, puis la gaieté mentale, les récréations, ça redonne de la vigueur à l'âme. M'entendez-vous, vous, les tristes? M'entendez-vous? C'est très important. Alors, lorsque saint Jean Chrysostome fulmine contre les plaisirs, ces œuvres du démon, il faut voir le contexte, ses reproches étaient lancés contre ceux qui passaient leur vie dans les amusements. Et on doit se servir du jeu et des divertissements de la même manière, dont on se sert du sommeil et d'autres genres de repos. Après qu'on a fait tout son devoir dans les choses sérieuses. Et j'imagine fort bien Jésus et Marie jouant la balle avec Jésus et riant avec lui, et riant vraiment beaucoup dans ce foyer très doux et très beau sous la conduite de saint Joseph.
Thank you.
Ce sont les moines de Solesmes, les bénédictins de Solesmes, près du Mans, en France, où il y a les courses du Mans. Si vous allez en France cet été, vous saurez peut-être un peu où vous dirigez pour aller à l'abbaye de Solesmes. Entendre ces moines qui chantent aujourd'hui « L'Église chante les saints ». C'est un disque qui porte ce titre. Et c'est un très beau disque. Ils chantaient à l'instant un chant de communion. Et voilà que, les réflexions de saint Thomas d'Aquin sur la joie sont importantes. Parce que le manque de joie mérite qu'on l'attaque. Et il faut répéter les paroles de saint Thomas d'Aquin. Moi, je trouve que nos chrétiens manquent de joie. On sort de nos églises, c'est tellement triste, ça fait pitié. Ici, on blague un peu, on passe pour étrange. Peut-être qu'on fait de mauvaises blagues aussi. Saint Thomas d'Aquin dit « Certaines personnes pieuses sont louées pour leur manque de joie. On appelle vertu leur goût des austérités. Néanmoins, tout ce qui est contre la raison est une faute, un péché. Or, il est contre la raison qu'un homme soit un fardeau pour ses semblables, en ne leur offrant aucun agrément et en les empêchant eux-mêmes d'en prendre. La joie est utile pour le contentement qu'elle procure. L'austérité en tant que vertu n'exclut pas les plaisirs vertueux, elle n'exclut que les plaisirs excessifs. Et ainsi, on peut réfléchir sur la douleur éprouvée par Marie et Joseph, lorsque Jésus était perdu dans le temple. Et ça nous fait voir que Dieu permet à tous des épreuves, et cela pour des raisons qu'il connaît seul. On sait seulement que c'est toujours pour leur propre bien. Et par ailleurs, le bonheur de Marie et Joseph, quand Jésus leur est rendu, nous montre que l'obéissance à la volonté divine ne doit pas chasser la joie de notre cœur. Nous devons faire confiance, c'est ça la question, faire confiance, demeurer serein. L'exemple de Jésus sera évidemment la preuve décisive de la grandeur de la confiance. On s'est parfois demandé si Jésus avait jamais ri, mais la question se pose depuis des siècles, sans avoir jamais obtenu de réponse. Et quelques-uns s'en surprennent. Mais j'ai déjà vu un film où on montrait Jésus qui riait, aimablement et gentiment, et qui jouait avec ses apôtres. Et c'était très beau, très bien fait, avec beaucoup de respect. Il est cependant facile de comprendre que les évangélistes n'avaient pas raconté les incidents plus ou moins humoristiques auxquels notre Seigneur aurait pu être mêlé. C'était pas leur but. Ils ont écrit pour transmettre un message important, rien de plus. Ils n'avaient pas à parler de ça. Et on a cru pouvoir argumenter ou raisonner là, en parlant du comportement de Jésus avec les enfants. Et c'est pas bête ce qu'on a dit. Notamment dans la scène, vous savez, où il est béni. Et on a parlé de son enjouement et même de sa gaieté. Il est bien évident que les enfants n'avaient aucune peur de lui, hein? Laissez venir à moi les petits-enfants. Un adulte sévère, là, qui est conscient du sérieux de son enseignement devant des enfants. Il ne peut pas être aimé des enfants, il est trop sérieux. Hein? Les tout-petits, ils voient au contraire dans l'attention de Jésus qui joue avec eux la preuve d'un véritable intérêt à leur égard. Hein? Il faut savoir amuser les enfants, les faire rire un peu. Et Jésus devait le savoir mieux que quiconque. C'est lui qui les a fait, ces enfants-là. Pouvons-nous croire que Jésus aurait agi avec les enfants d'une autre manière que celle qui lui assurait ainsi leur confiance puis leur amour? Un autre indice réside dans les paroles mêmes du Christ. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et il dit, c'est un homme de bonne chair et un buveur de vin, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est dans saint Matthieu, chapitre 11. Et Jésus n'était pas en effet ennemi des banquets. Il se conduisait là de manière à attirer à lui les pécheurs, puis à scandaliser ceux qui se rendaient trop facilement justice à eux-mêmes. Rien que cela témoigne de son caractère compréhensif et sympathique. Jésus était un homme sympathique et serein. Et Joseph aussi. Voyez son comportement, Jésus, aux noces de Cana. Il fabrique, par miracle, 500 litres de vin. C'est beaucoup, hein? Notre Seigneur n'a jamais été indulgent envers l'intempérance. Il n'acceptait pas ça. Mais ce jour-là, son attitude ne condamne certainement pas la jovialité de son entourage. Et les exemples austères de certains saints doivent être jugés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tenant compte de divers facteurs, hein, il nous faudrait d'abord posséder le tableau complet de leur existence, surtout lorsqu'il s'agit d'un saint né dans un siècle où les biographes, ou les hagiographes, comme on dit, considéraient qu'ils étaient de leur devoir d'agrandir le portrait que faisait du saint pour... faudrait remettre ça dans des justes proportions. La grâce divine correspond à chaque tempérament. Il n'y a pas de modèle tout fait. Heureusement, quelques-uns des exploits de saint Philippe Néri ont survécu, hein, aux ailes intempestives de certains de ses biographes. Ce contemplatif saint Philippe Néri, je vous en ai déjà parlé, c'était très populaire et je vais y revenir, et qui bénéficiait de dons mystiques supérieurs, mais il possédait un sens de l'humour qui lui permettait de ne pas laisser échapper les moindres petites farces. Cet humour n'a jamais été méchant, jamais grossier. Tout le monde s'accorde pour l'affirmer, mais il était bien réel. Et pourtant, il s'agissait d'un saint. Un grand saint. Un jour, il a invité à dîner avec toute la communauté qu'il avait fondée, qui s'appelait l'Oratoire, un homme d'église, haut placé. Qu'est-ce qui lui a servi? Une sardine. C'est de l'humour épouvantable. À un religieux qui lui demandait... puis Saint-Philippe était son supérieur, la permission de faire une pénitence publique, il lui ordonnait de porter une chemise de crin à l'envers, par-dessus ses vêtements ordinaires, puis il l'a fait monter à cheval à l'envers, tourné vers la queue, puis il l'a obligé à traverser ainsi les rues fréquentées de Rome. Puis à une baronne, il ordonne de chanter le Miserere à un mariage. On le voit, la sainteté s'arrange fort bien de la fantaisie. Je me souviens d'une nuit de Noël où le père Vincent Harvey, sans le vouloir, a invité les gens, après la messe de minuit, à s'avancer, ceux qui voulaient se fiancer. Et puis, il a dit, au lieu de fiançailles, il a dit funérailles. Et l'église entière a ri. Mais c'était joyeux et c'était beau. Une communauté chrétienne qui riait devant cette erreur, ce lapsus du père Vincent Harvey, du père Harvey. Alors, puissent les sourires et les rires. Conduit et changé, à mon sens, Jésus, Marie et Joseph, dans leur vie familiale. Nous servir de leçon à nous aussi. Soyons des saints joyeux comme saint Joseph. Soyons confiants malgré les grandes douleurs, les grandes souffrances. Ayons confiance, la volonté de Dieu est plus douce que tout. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, Seigneur. Oui, que ta volonté soit faite.